7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
Comment éviter l'embrasement au Moyen-Orient ? Israël prépare sa riposte après les attaques de l'Iran et les pays occidentaux prêchent la modération. Donald Trump risque gros, l'ancien président américain, en procès au pénal à partir d'aujourd'hui à Manhattan, à 6 mois de l'élection. Et puis 5 ans après l'incendie, Notre-Dame de Paris renaît de ses cendres, les travaux sont presque terminés.
Après le journal, l'éditorial politique avec Arthur Berda du Figaro, suivi de l'invité de la matinale, Antoine Bazbous, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes. Notez également qu'à 8h40, je recevrai un invité particulier. 5 ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris, l'organiste de la cathédrale, Olivier Latry, nous parlera de ses 40 ans au service de l'orgue de Notre-Dame et de ses 50 ans de carrière. Le monde se mobilise pour éviter un embrasement au Moyen-Orient.
Les réunions d'urgence se succèdent aux quatre coins de la planète depuis les attaques de l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. Conseil de sécurité de l'ONU, réunion du G7, réunion des ministres européens des affaires étrangères. Partout les mêmes mots, une condamnation de l'Iran et un appel à la modération pour la riposte israélienne. La planète sur un fil, un numéro d'équilibriste auquel s'est livré l'Iran avec ses attaques. C'est ce qu'explique le docteur en géopolitique Frédéric Ancel.
Le calcul iranien est toujours de jouer l'équilibre extrêmement précaire entre perdre sa crédibilité en n'agissant pas ou se prendre des représailles cataclysmiques en agissant trop fort. Jusqu'à présent, ils s'étaient abstenus de frapper eux-mêmes directement sur le plan militaire le sol israélien. Là, ils l'ont fait, mais ils l'ont fait de manière mesurée au regard de ce dont ils possèdent. Autrement dit, ils auraient pu frapper de manière plus efficace et plus destructrice. L'Iran a tenté d'éviter d'avoir une balance trop déséquilibrée dans le rapport coût-perte.
Des propos recueillis par Fabien Albert. Les États-Unis font tout pour éviter l'embrasement au Moyen-Orient. Ils ne veulent pas d'une guerre et l'administration Biden appelle Israël à la modération dans sa réponse à l'Iran. Le président Joe Biden aura aussi aujourd'hui un œil sur Manhattan. C'est là que s'ouvre le procès au pénal de Donald Trump pour l'affaire Stormy Daniels, une actrice X à qui l'ancien président aurait fait des versements cachés pour éviter le scandale d'une liaison, Victorien Villaume.
Il n'est pas reproché à Donald Trump d'avoir eu une aventure avec Stormy Daniels ou d'avoir acheté son silence, mais d'avoir falsifié des documents comptables pour cacher cette transaction financière de 130 000 dollars. À l'origine de ce virement, l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen. Ce dernier est devenu un témoin essentiel pour l'accusation. Depuis 2018, il affirme en effet avoir lui-même versé l'argent à Stormy Daniels pour le compte de Donald Trump. Ce matin, le procès commencera par une sélection des 12 jurés, un enjeu déterminant pour les deux parties. Ils doivent être considérés en effet comme impartiaux et donc répondre à un questionnaire méticuleux. Donald Trump a affirmé qu'il comptait bien témoigner pendant ce procès. Il prendrait alors le risque d'un parjure dans l'hypothèse où il viendrait à s'arranger avec les faits. Ce procès inédit au pénal pour Donald Trump devrait durer 1 mois et demi environ.
Et Donald Trump risque jusqu'à 4 ans de prison dans ce procès et évidemment des conséquences politiques à 6 mois de la présidentielle.
Et une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid démarre aujourd'hui.
Une campagne à destination des plus fragiles, les plus de 80 ans, les résidents des EHPAD et les patients immunodéprimés. Ça fait plus de 5 millions de personnes en tout, mais le risque, c'est de ne pas en voir beaucoup dans les pharmacies ou chez le médecin. À l'automne, seuls 2% de ces publics fragiles se sont fait vacciner. Le professeur de santé publique, Philippe Amouyel, prévient, il va falloir motiver tout le monde.
La plus grande limite, en fait, de cette campagne de vaccination, c'est la motivation des personnes pour venir se faire vacciner. Donc, en effet, il va falloir un peu communiquer. Et par exemple, dans le cadre des EHPAD, il est possible de faire les vaccinations dans l'EHPAD directement. Sinon, pour le reste, c'est sur la base du volontariat. Vous savez que vont avoir lieu des manifestations qui vont amener énormément de personnes en France, qui sont les Jeux Olympiques. Dans cette période où on a énormément de mal à anticiper les pics épidémiques, il est important, comme toujours, de protéger les personnes les plus fragiles. Néanmoins, il peut muter. Donc, certes, c'est une campagne vers les plus fragiles, mais si jamais on voyait réapparaître une nouvelle souche, là, on aurait à nouveau une vague de vaccination beaucoup plus généralisée.
Philippe Amouyel avec Rémi Fister. La crise immobilière et ses effets en cascade. Les ventes de pompes à chaleur sont en berne, moins 40% depuis le mois de septembre. Forcément, il y a moins de ventes de logements, donc moins de nouveaux propriétaires et au bout, moins de pompes à chaleur vendues. La filière attend des réponses du gouvernement. Les ministres de l'économie et de l'industrie visitent une usine près du Tréport dans la Somme aujourd'hui, Zoé Palier.
30 000 pompes à chaleur sont construites chaque année dans l'usine du groupe Intuis, où se rendent aujourd'hui les ministres. Mais depuis quelques mois, les ventes reculent.
Nous enregistrons des baisses de 15% par rapport à 2022.
Éric Baudry, directeur des affaires publiques du groupe.
Nous sommes en pleine crise du logement, d'une part sur le marché de la construction neuve, que ce soit en maison individuelle, et puis le marché du logement collectif, qui est également en retrait à près de 40%. Mais les périodes de crise, elles se font toujours cycliques, donc on imagine une reprise de l'activité à partir de l'été prochain.
Le secteur compte aussi sur MaPrimeRénov, dispositif d'aide à l'achat, plusieurs fois détricoté puis relancé. Il faut une simplification, plaide François de Roche, président de l'Association française des pompes à chaleur.
Le marché de la rénovation, c'est quasiment 80% des ventes. Si on n'a pas un dispositif d'aide lisible à plusieurs années, c'est quasiment impossible pour les entrepreneurs professionnels de pouvoir investir correctement et structurer ce marché.
Mais la crise est aussi européenne. Partout, les particuliers subissent l'inflation et les entreprises françaises peinent à exporter. La Commission européenne prépare un plan pour soutenir la filière, plusieurs fois repoussé. Il n'aboutira finalement pas avant les élections du mois de juin prochain.
Les ministres de l'économie et de l'industrie dans une usine de la Somme, donc aujourd'hui, et ça va souffler. La Somme, comme le Nord et le Pas-de-Calais, en vigilance orange, vent violent jusqu'à ce soir, avec des rafales autour de 100 km/h.
5 ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris, les travaux sont presque terminés.
On a tous le souvenir de ce 15 avril 2019, un peu avant 19h. La flèche en feu de Notre-Dame s'écroule, la cathédrale ravagée par les flammes. Emmanuel Macron avait promis de tout rebâtir en 5 ans et les travaux sont presque terminés avant la réouverture en décembre. Il reste tout de même un chantier, celui du diocèse de la cathédrale. Le reportage de Lauriane Toulmont.
5 ans que l'écho des vêpres n'a pas résonné au sein de la cathédrale. Le directeur de la maîtrise de Notre-Dame de Paris se souvient, Henri Chalet.
C'était notre seconde maison. Ce qui nous manque, c'est toute l'effervescence. C'est aussi l'odeur de l'encens, la lumière avec les vitraux, le son évidemment. Il y a ce mélange d'impatience, d'envie, de curiosité aussi, de retrouver un peu cette atmosphère. Nous travaillons depuis plusieurs mois à la réouverture qu'il y a 1200 offices à organiser. Et donc, il faut reprendre nos marques.
Et il faut aussi réaménager l'intérieur de l'édifice pour les fidèles avec notamment 2000 chaises à installer. Elles ont été construites sur mesure, mais impossible de commencer tant que le grand chantier patrimonial, lui, n'est pas terminé. Le chantier dans le chantier attend donc son tour pour Olivier Josse, secrétaire général de la cathédrale.
Un chantier dans le chantier, c'est une très lourde organisation. Ça signifie repositionner 1600 points de lumière dans la cathédrale, 120 enceintes. Nous avons passé toutes les commandes. Les éléments du mobilier liturgique sont en train d'être fondus à la fonderie Barthélémy dans la Drôme.
Toute la signalétique et la sécurité sont à refaire pour gérer l'afflux de visiteurs. Avant l'incendie, ils étaient chaque année 10 à 11 millions. Ils seront 14 à 15 millions après la réouverture.
Le reportage de Lauriane Toulmont pour Radio Classique.
Et à 8h40, on retourne à Notre-Dame de Paris avec un invité exceptionnel, Olivier Latrie, l'organiste titulaire du grand orgue de Notre-Dame depuis 40 ans, sera avec nous sur Radio Classique. Il nous parlera de sa passion pour cette cathédrale et pour cet instrument, évidemment.
Les travaux de Notre-Dame et les travaux des équipements olympiques. Emmanuel Macron sera au Grand Palais dans moins d'une heure maintenant. C'est là qu'auront lieu les épreuves d'escrime des Jeux de Paris. Le président lance symboliquement le compte à rebours des Jeux. On est exactement à 102 jours.
Vous comptez bien. Merci Virginie. À demain, à suivre l'éditorial d'Arthur Berda qui va nous parler des partis politiques confrontés à l'équilibre nécessaire des temps de parole dans les médias. C'est une gestion stratégique par ces partis politiques. Suivi de l'invité de la matinale, aujourd'hui Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des Pays Arabes, associé de Forward Global. Et juste après la revue de presse, suivi d'un invité particulier, l'organiste de Notre-Dame de Paris, Olivier.